Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour, vous écoutez Graphite sur 94.9 et sur graphite.net. Je suis Stéphane Poinsard, en direct du studio avec 4 étudiants de l'Université technologique de Compiègne, Timéo, Pierre, Benoît et Oscar. On se retrouve pour des émissions autour du cours WE01 Questionner le web de l'UTC. Les étudiants et étudiantes viennent y présenter le résultat de leur travail de recherche articulé autour de questions sociotechniques portant sur le web. On commence par la première intervention sur le thème d'Internet décentralisé. Je passe la parole à Timéo et Pierre pour nous en dire plus.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes Pierre Farjas et Timéo Maté, et dans cette émission, nous allons tenter de vous expliquer de quelle façon Internet s'est transformé au cours de l'histoire récente et quels sont les risques associés à sa forme actuelle. Mais avant d'en venir là, faisons le point sur l'histoire d'Internet en lui-même.
Dans son article intitulé « Internet, retour sur 50 ans d'une folle histoire » publié en 2019 sur le média numérique Next, Vincent Herman retrace la mise en place et l'évolution d'Internet. D'après lui, tout commence dans les années 60 avec le chercheur Leonard Kleinrock du MIT qui imagine un système de communication entre universités par commutation de paquets. Je cite « Une information allait être découpée en paquets, chacun contenant un en-tête et une charge utile. Chaque appareil par lequel transite le paquet va lire l'en-tête, puis chercher la prochaine étape du voyage. » Rapidement, la défense américaine, par l'intermédiaire de la DARPA, pour la Defense Advanced Research Projects Agency, s'est intéressée à ce concept de transmission de données, et elle nomme le chercheur Lawrence Roberts, qui avait réussi la première transmission de données en 1965 à la tête du projet ARPANET. Donc les plans seront vite achevés en 1967, et l'ancêtre d'Internet commence à se mettre en place. D'après l'auteur, à cette époque, les enjeux du projet ARPANET sont cruciaux pour la défense américaine, qui est alors en pleine guerre froide avec le bloc de l'Est. L'idée, c'était de créer une continuité de l'information en environnement décentralisé en cas d'attaque. On comprend donc que le système qui constitue les fondations d'Internet est de conception décentralisée, en permettant le voyage et donc le stockage de l'information en différents endroits. Puis, c'est en 69 que le premier paquet d'informations fut transmis avec succès entre UCLA et le MIT. Ensuite, entre 1971 et 1973, le concept déjà existant d'email va être remis au goût du jour avec l'arrivée d'ARPANET. Donc c'est l'ingénieur Ray Tomlinson de chez BBN qui propose le arrobase comme séparateur entre le nom de la personne à contacter et le nom de la machine. Son idée a permis d'adapter la structure des emails à ARPANET, via lequel on pouvait désormais s'envoyer de longs messages écrits. Donc, en plus de données brutes décentralisées, on pouvait désormais décentraliser les communications par longs messages, ce qui est une véritable aubaine pour les chercheurs de l'époque. Enfin, en 1974, les chercheurs Vinserf et Bob Kahn émettent une idée pour permettre l'interconnexion entre machines de réseaux différents. C'est le TCP/IP pour Transmission Control Protocol et Internet Protocol. Ils mettront donc rapidement leur théorie en œuvre en créant une architecture stratifiée qui permet de décomposer l'information qui part d'une machine et la reconstruire sur une autre. Enfin, en 82, leur solution est définitivement implantée sur ARPANET, qui est donc un réseau de réseaux, puisqu'il est capable de communiquer avec d'autres réseaux. Et comme le retranscrit Herman dans son article, pour Vinserf, Internet est alors né. Donc pour résumer, en lisant Herman, on comprend très vite qu'Internet est de conception décentralisée en étant le savant mélange d'innovations permettant de transférer et stocker les données sur des machines différentes. De plus, nous savons qu'Internet a été mis au point pour des besoins de sécurité lors de la guerre froide, ce qui laisse germer l'idée que décentraliser des données et l'information est plus sûr. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, il nous reste donc une question. Qu'en est-il de la décentralisation d'Internet aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, on constate qu'Internet et la majorité de ses services en ligne les plus utilisés sont détenus par un faible nombre d'acteurs du numérique surnommés les GAFAM. Originellement pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ce terme désigne aujourd'hui les géants du numérique en général. Le marché de la donnée est donc devenu un oligopole dans lequel les GAFAM détiennent des quantités faramineuses de données d'utilisateurs, soit une opposition totale au principe de transmission de données à l'origine d'Internet qui adopte maintenant, à cause de contraintes et du système économique auquel il a été soumis, une forme de centralisation des données. En 2022, avec plus de 1,8 milliard de sites existants, près de 57% du trafic Internet est réalisé sur seulement 6 groupes d'applications. Encore plus impensable, près de 21% du trafic se fait sur les sites détenus par Google uniquement. Pour les réseaux sociaux, en 2023, Facebook compte près de 3 milliards d'utilisateurs actifs, soit plus d'un tiers de la population mondiale. Cette centralisation du trafic Internet permet aux GAFAM de s'enrichir énormément. Certaines entreprises, comme Microsoft, ont décuplé leur capitalisation boursière en 10 ans, passant de 250 à 2500 milliards de dollars entre 2011 et 2021. Mais comment des services gratuits tels Facebook sont-ils capables de générer autant d'argent ? Une partie des revenus est certes générée par la publicité, mais la majeure partie des revenus des GAFAM provient de la collecte des données des utilisateurs exploitées pour construire à chacun d'eux un profil ultra spécifique. Cette collecte est réalisée en trois étapes. Le premier est la captologie, qui provient du terme anglais Computer as Persuasive Technology. La captologie a été formalisée par le chercheur Fogg pour désigner l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outils de persuasion et de changement des comportements. Cette méthode décrit les quatre principes avec lesquels les GAFAM conditionnent les utilisateurs en captant leur attention pour créer une inertie d'utilisation de leurs services et ainsi engendrer le plus de données possible. Premièrement, il faut un signal externe qui déclenche chez l'utilisateur l'envie de se servir du produit, par exemple une notification ou un email. Deuxièmement, il faut une action simple, comme partager un contenu ou se déplacer sur une application. Troisièmement, une récompense variable, comme des likes ou du contenu divertissant. Et enfin, un engagement avec, par exemple, la personnalisation de paramètres ou la création de nouveaux contenus. La seconde étape est celle de la collecte des données en elle-même. Pour cela, les GAFAM emploient ou font appel à des pisteurs qui collectent des données comme la vitesse de défilement, le temps passé devant une publication ou encore la vitesse de frappe sur le clavier. Par exemple, les pisteurs peuvent dépouiller les cookies, des fichiers contenant des données retraçant la navigation des utilisateurs sur un site web appartenant ou non aux GAFAM. Autre exemple, les smartphones qui donnent accès à de nombreuses informations plus sensibles telles que la localisation, le temps de sommeil ou encore les opinions politiques en fonction de votre activité sur Internet. Toutes les données récoltées par les pisteurs sont rassemblées par utilisateurs et pourront être utilisées entre autres par les GAFAM. De plus, certaines entreprises achètent également des données à des data brokers, des entreprises spécialisées dans l'achat et la revente des données. Ça a par exemple été le cas de Google qui a racheté la totalité des transactions effectuées avec Mastercard en 2018. Enfin, la dernière étape est bien évidemment l'utilisation des données. Elle alimente des programmes de machine learning utilisés par des IA afin de prédire le comportement des utilisateurs en ligne. Le sujet est d'ailleurs étudié dans l'article « Can Machine Read Our Mind » de 2019 par Christopher Burr et Nello Christianini, chercheurs à l'Université de Bristol. Dans cet article, on nous parle d'algorithmes capables d'anticiper de nombreuses caractéristiques psychologiques telles que les valeurs morales, la qualité d'écriture, l'orientation sexuelle ou même des handicaps tels que l'autisme, la dyslexie ou la dépression. Toutefois, ces prédictions ne sont pas toujours exactes et sont même peu performantes dans certains domaines, tels que les prédictions sociales. Toutes ces données permettent ainsi aux GAFAM de construire un profil spécifique à chaque utilisateur. Les GAFAM passent ensuite en mode régie publicitaire, en revendant ces profils à des marques qui souhaitent promouvoir un produit. Un bon exemple serait des assurances qui cherchent à cibler des personnes à risque, des partis politiques cherchant à influencer l'opinion des utilisateurs, et même des chercheurs souhaitant recruter un public spécifique. On se rend compte alors du danger que représentent les commerces de nos données, qui peut dépasser le cadre de la publicité. Elles pourraient en effet contribuer à manipuler l'opinion publique via les bulles de filtre, en faisant en sorte par exemple que l'expérience en ligne d'un utilisateur le réconforte dans ses idées.
Donc pour mieux comprendre cette histoire de centralisation d'Internet, ses conséquences néfastes mais aussi les solutions envisageables, nous allons écouter un extrait du podcast intitulé « Mastodon ou une étape vers la décentralisation d'Internet » publié sur Spreaker en 2017, par l'ingénieur en informatique Jean-David Oleknovich, qui a notamment fondé l'incubateur de start-up Canvas.
Où en fait, l'Internet tel qu'il était imaginé au début était quelque chose de très décentralisé, où chacun pouvait héberger son propre serveur. Il n'y avait même pas de notion de client et de serveur. Chaque machine était sur Internet, point, et pouvait soit consulter des services, soit en héberger. C'est ainsi que le premier site web, qui a été conçu au CERN par Tim Berners-Lee sur Annext, l'était sur un poste de travail et certainement pas sur un serveur. Qu'est-ce qui a fait que les choses sont centralisées? C'est tout simplement la réappropriation d'Internet à des fins commerciales avec des acteurs majeurs comme Yahoo à l'époque, puis Google, puis Facebook, puis tous les services que vous connaissez aujourd'hui, où les choses se font de manière très centralisée. Et on n'est pas loin finalement d'un retour à une architecture à la Minitel, comme on a connu en France, où on a des clients plus ou moins passifs qui se connectent à des serveurs. La raison est commerciale, mais elle est aussi technique, parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'héberger des choses par soi-même. Ça a été très simple de prendre les internautes par la main et de leur dire « vous en faites pas, vous embêtez pas à héberger quoi que ce soit, on va faire les choses par nous-mêmes ». Ça amène plein d'avantages, plein de simplifications, ça amène aussi pas mal de complications, en particulier au niveau humain, politique, j'allais dire. Quand un site comme Twitter est complètement centralisé et dépendant d'une seule et unique entreprise commerciale, on peut se poser la question de quelle est la légitimité de cette entreprise commerciale, cotée en bourse, etc., pour décider de qu'est-ce qui doit être diffusé, qu'est-ce qui doit être censuré.
Dans cet extrait de son podcast, Oleg Novitch nous explique donc qu'Internet s'est rapidement centralisé, notamment avec le marché de la donnée qui s'est créé autour dont nous avons parlé précédemment. On comprend aussi que ce marché de la donnée est en majorité détenu par les GAFAM, offrant à une poignée d'individus un pouvoir incommensurable sur tous les utilisateurs dont vous faites très probablement partie. Vous devez alors comprendre que cette centralisation d'Internet est dangereuse pour nous tous, usagers du web. Effectivement, nous ne disposons plus réellement de nos données qui sont réutilisées presque sans notre consentement par les géants du numérique. C'est sûrement pourquoi, depuis quelques années, on voit émerger de plus en plus d'applications et d'outils décentralisés. Chacun de ces outils vont permettre, dans les faits, de ramener un peu plus Internet vers la conception originale qu'Herman nous présentait dans son article. C'est la redécentralisation. Oleg Novitch en parle d'ailleurs dans son podcast, en évoquant Mastodon, une alternative décentralisée à X, anciennement Twitter. Concrètement, Mastodon est beaucoup plus flexible que son homologue. Il permet à chaque utilisateur d'administrer sa propre version de l'application avec des règles de modération personnalisées, tout en l'hébergeant sur un serveur choisi. En démultipliant ainsi les administrateurs et les serveurs, on permet d'éviter la centralisation des données chez Twitter, favorisant alors la liberté d'expression et en diminuant les risques d'exploitation des données par les GAFAM.
Mastodon n'est pas la seule contribution à une redécentralisation d'Internet qui existe. On observe aussi le développement d'une forme de culture libre et collaborative sur Internet qui aspire à un futur plus sûr et libéré des GAFAM. C'est par exemple le cas de la culture solarpunk. Un bon exemple serait un outil tel que OpenStreetMap, qui est un genre de Google Maps open source auquel chacun peut contribuer en implémentant de nouvelles informations comme un nom de rue, de bâtiment. Finalement, pour votre sécurité, pour notre sécurité, nous devons tous faire le choix de revenir à un Internet tel que celui décrit dans l'article de Herman. Un environnement décentralisé d'échange de données et de messages. Mais cette fois, il doit être géré par les utilisateurs au travers d'une culture commune et d'outils libres du joug de l'oligopole des GAFAM, afin d'éviter les risques de la centralisation des données et tout ce qu'elle implique.
Je vous remercie pour cette intervention. On comprend bien que la décentralisation d'Internet n'est pas qu'une question technique. Elle permet la préservation de la diversité d'Internet, une diversité des sites, des plateformes, des actions que chacun peut mener pour contribuer à Internet sans rester limité au rôle de consommateur. Et pour terminer, nous allons approfondir le thème du marché de la donnée. Cette intervention se déroulera dans un format un peu particulier, sous la forme d'un jeu de rôle. Nos deux étudiants vont simuler une discussion entre un étudiant et un expert. Et je passe la parole à Benoît et Oscar.
Bonjour et bienvenue sur Graphite. Je m'appelle Benoît, je suis élève à l'UTC et je suis le cours WE1 afin de développer mes compétences en écriture, communication et collaboration sur le web. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau Oscar, aussi étudiant à l'UTC, qui va jouer le rôle de spécialiste des médias et des nouvelles technologies.
Bonjour à toutes et à tous, merci Benoît pour cette présentation.
De nos jours, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Faites-vous partie des 66% de la population mondiale utilisant régulièrement les réseaux sociaux? Si c'est le cas, vous connaissez certainement Facebook, colosse du numérique et des réseaux sociaux créé par Mark Zuckerberg en 2004. Dans cette émission de radio, nous allons vous expliquer comment, vous, en tant qu'utilisateur Facebook, participer à l'essor économique du géant américain à travers la publicité ciblée.
Dans un premier temps, je vais vous parler de comment Facebook produit des revenus en m'appuyant sur un article provenant du blog Pixel de Tracking, spécialisé dans les médias et nouvelles technologies. Cet article nommé « Avec les signaux résilients de Facebook, la surveillance publicitaire évolue » a été publié en août 2021. Aujourd'hui, la publicité est le gagne-pain des réseaux sociaux. 98% des revenus de Facebook sont générés grâce aux multiples publicités natives que l'on retrouve à travers le fil d'actualité de l'utilisateur via des stories ou encore une marketplace intégrée au réseau social. Benoît, petite question pour introduire le sujet. Connaissez-vous la loi de l'offre et la demande ?
Oui, bien sûr. De mémoire, l'offre augmente lorsque la demande diminue et la demande augmente lorsque l'offre diminue.
À ce que je vois, Benoît, vous avez de bons souvenirs de lycée. Toutefois, cette loi s'applique uniquement à la vente de biens et de services traditionnels. En réalité, Facebook est un marché biface qui met en relation les utilisateurs qui offrent leur attention et les annonceurs qui paient pour cette attention. Le cheval de bataille de Facebook est donc de maximiser ses revenus en augmentant l'offre tout en augmentant la demande.
Auriez-vous un exemple concret afin de mieux comprendre cette stratégie économique ?
Tout à fait, Benoît. Prenons l'exemple de la plateforme de streaming Netflix. Cette dernière augmente l'offre en proposant de plus en plus de contenu tout en augmentant la demande, qui est le nombre d'abonnés. De façon similaire, pour augmenter l'offre, Facebook augmente les espaces de temps accordés aux publicités sur sa plateforme, et pour augmenter la demande, ce dernier mise sur l'excellent retour sur investissement des placements publicitaires. En effet, si l'insertion de publicité permet aux investisseurs de gagner de l'argent, une concurrence s'installe entre eux afin de pouvoir diffuser leur publicité sur la plateforme, ce qui fait grimper les prix. Mais tout cela a un prix. Un espionnage constant des utilisateurs afin de cibler parfaitement les envies et centres d'intérêt de ce dernier. Pour cela, Facebook utilise des outils tels que les plugins sociaux, qui sont des boutons like, partager, commenter, etc. Lorsque l'utilisateur utilise ces boutons, Facebook connaît ses centres d'intérêt et lui envoie de la publicité ciblée. Encore plus fou, le groupe Meta a développé le Facebook Audience Network, un réseau publicitaire qui permet aux sites et applications partenaires du groupe de procurer de la publicité ciblée à l'utilisateur même s'il n'est pas connecté sur Facebook.
Plus généralement, est-ce qu'on pourrait parler du marché de la donnée ?
Tout à fait. Le marché de la donnée est une notion selon laquelle des données sur les utilisateurs Internet sont récoltées et ensuite revendues. Comme son nom l'indique, un véritable marché s'est mis en place autour de la vente de données, parfois personnelles, à des fins publicitaires. Différents acteurs interagissent dans ce marché extrêmement lucratif. Des entreprises spécialisées, appelées data brokers, récoltent et agrègent des données à partir de différentes sources qui peuvent être les réseaux sociaux ou tout site web et application. Ces informations sont par la suite revendues à des régies publicitaires dont le commerce est de faire le lien entre entreprises souhaitant mener une campagne de publicité ciblée et emplacement de publicité sur Internet.
Mais pourquoi les régies publicitaires doivent-elles obtenir des informations sur les utilisateurs ?
Une entreprise souhaitant vendre un produit ou un message cherche à ce que sa publicité soit proposée à un profil type le plus susceptible de l'acheter. Pour cela, les régies publicitaires proposent les emplacements publicitaires les plus adaptés au public que la publicité cherche à toucher, à partir principalement du captage direct des données utilisateurs. Des algorithmes prédisent quels utilisateurs sont susceptibles d'être affectés par quelle publicité. Les GAFAM possèdent pour la plupart leur propre régie publicitaire, par exemple Google Ads, Facebook Ads ou encore Instagram Ads. Ces régies sont chargées de gérer les publicités sur les réseaux sociaux respectifs.
Nous avons vu des éléments techniques en cours sur la récolte de données Internet. Les outils actuels permettent d'obtenir le profil quasiment complet d'un individu. Par exemple, Facebook est capable d'obtenir la situation familiale, les centres d'intérêt d'un individu, mais aussi d'estimer ses revenus. Le profil psychologique d'un utilisateur peut également être établi. Toutes ces informations sont utiles, d'abord d'un point de vue financier, pour déterminer les habitudes de consommation d'un individu, mais aussi d'un point de vue surveillance pour obtenir le profil politique et idéologique d'un citoyen. Les principaux moyens pour un site d'enregistrer l'activité sur une page sont les cookies. Lorsque quelqu'un accède à un site, il devient client du serveur sur lequel est hébergé le site. Les cookies sont des fichiers renvoyés au serveur contenant des informations sur l'utilisateur qui consulte le site. Ces informations peuvent être extrêmement précises, comme le temps passé et la vitesse de défilement. Par ailleurs, les data brokers récoltent pour certains leur base de données grâce au SDK, Software Development Kit, des outils d'aide au développement d'une application proposés gratuitement en échange de la collecte des données des utilisateurs de l'application. Quelles données sont captées n'est pas toujours clair pour le développeur, et surtout, elles ne transitent pas nécessairement par lui. J'ai justement écouté récemment une émission radio de France Culture à ce sujet. Antoinette Rouvreau, chercheuse au Centre de recherche en information, droit et société à l'Université de Namur, elle décrit les dangers de la récolte des données sur la confidentialité. Voici un extrait audio.
Ce qui est particulièrement dangereux, c'est lorsque les bureaucraties privées ou publiques s'adjoignent des algorithmes extrêmement puissants pour finalement gouverner, par exemple, des compagnies d'assurance qui vont utiliser le fait que vous soyez particulièrement à risque de développer telle maladie ou d'être absent au travail. Là, elles peuvent récolter des données relatives au code postal de la localité que vous habitez. Et sachant que dans cette localité, il y a beaucoup de personnes sans emploi, eh bien, l'assurance ne va peut-être pas vous assurer de la même manière qu'elle assurerait le commun de la population. C'est en fonction du supermarché que vous fréquentez, c'est en fonction des films que vous voyez sur Netflix ou sur d'autres plateformes, c'est en fonction du nombre d'amis que vous avez sur vos réseaux sociaux que les risques ou opportunités vont être décidés.
Mais Oscar, tout cela ne devrait-il pas être encadré par la loi ?
En Europe, la collecte des données personnelles telles que l'adresse IP, l'adresse mail, etc. est régulée par le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données. Mais attention, la loi n'empêche pas l'exploitation des données personnelles. Elle oblige les entreprises à demander le consentement de l'utilisateur tout en étant transparent quant aux données qu'elles possèdent sur lui. Finalement, d'autres moyens tels que les bloqueurs de publicité émergent pour limiter l'espionnage.
Pour finir, comme on l'a dit précédemment, ce qui est payant sur une application comme Facebook n'est pas le service en tant que tel, mais bien l'attention que l'utilisateur y consacre. La valeur de l'utilisateur dépend donc de sa capacité à rester connecté, attentif et à interagir avec les autres utilisateurs. Le meilleur moyen de se préserver pour l'utilisateur ne serait-il pas alors de tout simplement supprimer ses applications ou de choisir des applications plus respectueuses des données personnelles ?
Merci pour votre intervention. Mieux comprendre les mécanismes du marché de la donnée, cela donne envie de mieux se protéger en faisant de meilleurs choix. C'était Internet décentralisé et le marché de la donnée. Deux interventions avec Timéo, Pierre, Benoît, Oscar et moi-même, Stéphane Poinsard. Je vais également citer Stéphane Croza, le responsable des enseignements du W1 à l'UTC, et Quentin Duchemin, qui prend également en charge une partie des cours et des TD, que je remercie pour l'aide à l'organisation de ces émissions. Cette émission est donc réalisée dans le cadre des cours W1 à l'UTC et du projet LibreCours.net. Elle est diffusée en direct depuis le studio Graphite le 11 juin 2025. Et c'est le dernier épisode radio de W1 aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir à tous.